Sois béni, Seigneur Jésus, pour cette journée nouvelle que tu nous donnes, pour ce beau soleil. Merci pour tout ce que tu nous accordes dans ta grâce. Et nous te prions de nous aider à bien comprendre ta parole afin que nous puissions être toujours vainqueurs. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, d'agréer ce culte que nous venons te rendre ce matin. Amen. Amen. Nous allons écouter un nouveau ancien chant. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que c'est bien. Allons-y, Stéphane et Olivier. Merci beaucoup, merci les musiciens. Mais je ne me rappelle pas du tout de ce chant. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Faut dire que ça fait longtemps qu'on vit ici, ça fait quand même 26 ans, hein. Et aujourd'hui, nous fêtons les 17 ans de mariage d'Éric et Mélodie. Bravo! Et pour leur anniversaire de mariage, ils ont un beau cadeau, c'est qu'ils déménagent. on est là dans le salon du château, pour ceux qui nous écoutent sur Révélation Bible, alors on dirait vraiment pas, ça ressemble plus du tout au salon du château que nous avons l'habitude de voir, puisqu'il y a des armoires, des mets, une table de nuit, toutes sortes de trucs qui sont prêts à partir demain avec le camion. On est tout contents, c'est un nouveau départ dans notre nouvelle vie. Et bientôt, le reste de la communauté les rejoindra avec joie. Amen. Et voilà, Rachel va s'en aller aussi, toute contente. Elle a fait ses cartons. Enfin, elle a été aidée un petit peu par Timothy. Hein? Ils ont tous fait les cartons. C'était super parce qu'on a retrouvé des vieilles photos. C'était tellement joli. Des vieilles photos de Michou quand elle était toute petite, après quand elle était un peu plus grande, qu'elle faisait de la danse et tout, c'est joli. Des photos que j'avais jamais vues moi-même, elle me les cachait, hein. Heureusement, Rachel les gardait précieusement dans son coffre-fort. Et en faisant les cartons, on a pu retrouver tout ça. Et c'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour ce chant, il est formidable d'aimer. C'est un très beau chant. Et ça va tout à fait très 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 bien avec la prédication de ce matin au sujet de l'amour. Je vais prendre ma Bible avec vous dans Matthieu chapitre 5 et verset 43. Matthieu 5, 43. Alors, je me demande si nos amis dissidents ont acheté cette Bible Archéos, puisqu'elle est pleine de photos d'idoles et de photos de temples de Baal et d'archéologie. Je pense qu'ils n'ont pas dû l'acheter, ils doivent dire qu'elle est diabolique. Hein? Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 43, je vous lis. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ami. » Ah, c'était bien, c'était Baudelaire. Non, c'est pas vrai, c'était pas bien. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de la même manière ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Bon, c'est un texte merveilleux ce matin. Aimer nos ennemis. Combien même parmi les chrétiens trouvent ce commandement absolument impossible à mettre en pratique ? Déjà, ce n'est pas toujours sûr qu'on sache aimer nos amis. Alors, comment aimer ceux qui nous font du mal? Mais qu'est-ce que ça veut dire, les aimer? Ne pas les détester, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Mais les aimer, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Et en fait, c'est comme ça que, là, en réalité, tout le monde, ou presque, pense. Bon, ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont chrétiens, ils ne vont pas dire « je déteste mes ennemis » puisque Jésus a dit « aimez vos ennemis », ils vont vous dire « je les aime ». Mais en réalité, au fond de leur cœur, c'est dur. En fait, c'est vrai que c'est dur, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Mais mes frères et sœurs, c'est possible d'aimer ceux qui nous font du mal à une seule condition. Il n'y a qu'une seule condition. C'est quand on arrive à admettre que ces gens-là sont des amis déguisés. Vous vous rappelez que je vous disais toujours, les problèmes sont des solutions déguisées, sont des chances déguisées. Eh bien, nos ennemis, ceux qui nous font du mal, sont des amis déguisés. Dieu nous les a fait rencontrer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui échappent à Dieu? Non. C'est donc Dieu qui les a mis sur notre chemin pour nous obliger à progresser. dans la voie de la maîtrise de nous-mêmes, dans la voie de la libération. Alors je vais expliquer. Avoir des amis, c'est un grand bonheur. Et j'ai 66 ans et j'ai eu beaucoup d'amis, mais vraiment beaucoup d'amis dans ma vie. Et j'ai vécu des choses formidables avec eux, des choses vraiment formidables. On vient de chanter, hein, c'est formidable. Mais en fait, j'ai appris une chose depuis que je suis converti, avec le temps, il m'a fallu du temps pour le comprendre, c'est que la plupart n'étaient pas des amis, ils étaient juste des alliés. C'était des alliés, c'est-à-dire qu'ils avaient une raison de me fréquenter, un intérêt en quelque sorte, même s'ils ne s'en rendaient pas vraiment compte. Des gens qui cherchaient, certains, à être approuvés, certains qui cherchaient à être soutenus, à être aidés, même dans leur mauvais côté, parce qu'ils savaient que dans l'Église de Jésus-Christ, on pardonne, on donne toujours une nouvelle chance, il y a un pardon à l'avance, donc, eh bien, ils savaient qu'ici, ils pouvaient être soutenus même dans leur mauvais côté. Et puis, il y en a qui en ont usé et d'autres qui en ont abusé. Hein? J'ai eu beaucoup d'amis comme ça, en fait, si je fais la liste, beaucoup d'amis. En fait, peu d'amis vraiment sincères, de vrais amis vraiment sincères. Un ami sincère, il n'approuve pas toujours ce que vous dites, ce que vous faites, mais il a la façon de le dire, il a la façon de l'exprimer, il vous connaît, il sait comment s'y prendre avec vous. Si un ami se sent, je dis entre guillemets, si un ami se sent trahi parce qu'on lui tient tête, alors ce n'est pas un ami, c'était juste un allié. Vous voyez, c'était juste un allié. Vous avez quelqu'un qui est un ami, il dit quelque chose, ou il fait quelque chose, et il trouve, il dit, c'est pas tout à fait correct, tu devrais... Et alors il se sent jugé, et on peut pas le... Non, il faut pas changer une virgule de ce que j'ai dit. C'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous voyez? Et il se vexe, et alors il se renferme sur lui-même, et puis il essaie de s'entourer avec d'autres alliés. Il ne va pas chercher les forts, hein, il va chercher ceux qu'il juge les plus vulnérables. C'est moche, c'est très moche. Mais il faut les aimer quand même aussi, ces gens-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Comme dirait Sarkozy, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui a eu un intérêt avec toi, d'être avec toi pendant un certain temps, ça c'est un allié, quelqu'un qui s'est associé avec toi, quelqu'un qui s'est allié avec toi. Il a appris des choses, il a pu trouver une certaine stabilité parce qu'il t'a rencontré, parce que tu l'as béni, parce que... Voilà, mais ce n'est pas un ami. Et ça se voit dans le temps. Quand un, entre guillemets, ami se fâche parce que vous osez lui dire qu'il a tort, par exemple que sa prophétie n'est pas tout à fait correcte, et ça on a le droit de le dire, puisque la Bible dit qu'il faut juger les prophéties, c'est dommage pour lui, parce que il laisse passer une occasion de s'améliorer. Il faut que nous fassions attention de ne pas être comme ça. Celui qui veut véritablement évoluer, il accepte les observations et il accepte les critiques. Ça peut être des fois difficile à avaler, mais il y réfléchit, il cherche à discuter, il veut savoir, il essaie de comprendre. Et puis, il accepte, si c'est juste, il accepte de changer sa façon de voir, et même s'il est vraiment sage, eh bien, il comprend jusqu'à l'utilité d'avoir des ennemis. Donc, il peut aussi bien accepter des amis qui le contredisent, s'il est vraiment sage, au point de comprendre qu'il y a même une utilité d'avoir des ennemis. Vous voyez les degrés? Je vous parlais qu'il y aurait des degrés de gloire dans le ciel. Et ces degrés, ils commencent à se dessiner ici-bas, sur cette terre, dans notre façon de nous comporter entre nous. Un jour, un homme se plaignait et il disait à Dieu, « Mais pourquoi est-ce que tu préfères toujours te servir de la tragédie pour écrire le livre du destin ?» C'était un homme qui passait par une épreuve terrible. Et un ange lui est apparu et lui a dit, « Tu ne sais pas ce que tu dis. » qu'il n'y a pas de tragédie, il y a seulement l'inévitable. Et l'ange a continué en lui disant, Jésus n'a-t-il pas dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu 18, 17, ça c'est moi qui rajoute. Les anges donnent rarement les références bibliques. Ils savent que nous avons des concordances et qu'on peut aller chercher nous-mêmes. Alors l'ange a continué à dire, je te le dis, il n'y a pas de tragédie, il y a seulement l'inévitable, le nécessaire. Tout a sa raison d'être. Les scandales sont inévitables. C'est à toi de savoir distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Alors l'homme était un peu suffoqué par tout ça et il a dit, mais qu'est-ce que c'est qui est passager? Et l'ange a répondu, l'inévitable, le nécessaire. Alors l'homme a continué à poser des questions, il a dit, mais qu'est-ce que c'est qui est définitif alors? Et l'ange a répondu, les leçons de l'inévitable. Et puis l'ange s'est éloigné, parce que vous savez, les anges ne sont pas bavards. Ils estiment que quand ils ont dit une fois une chose, on doit les avoir comprises, et si on ne les a pas compris, on doit y réfléchir, les méditer. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, ce qui arrive à l'échelle mondiale en ce moment, cette crise, cette horreur, ces horreurs qui se produisent, c'est inévitable. C'est même nécessaire. Il faut que ça arrive parce qu'il y a un but là derrière. Il faut que l'Antichrist puisse apparaître. Il ne va pas apparaître en temps de paix, il va apparaître en temps de conflit afin de pouvoir s'imposer en mettant la paix. Et tout le monde l'adorera pensant qu'il est Dieu. C'est nécessaire, il faut que ces choses arrivent. Jésus dit que c'est nécessaire. Alors c'est vrai que c'est épouvantable, c'est terrifiant même. Et ce qui arrive dans l'Église en ce moment, c'est aussi inévitable. C'est même nécessaire. Quand je dis ce qui arrive dans cette Église, dans l'Église, ce n'est pas forcément dans notre Église, c'est dans toutes les Églises. Regardez l'Église catholique, ce qui se passe en ce moment avec tous ces scandales qu'il y a en ce moment. Regardez les Églises évangéliques, regardez les Églises... Partout, il y a des scandales. Et chez nous, ben aussi. Ce qui t'arrive dans ta vie, c'est inévitable et c'est même nécessaire. Mais tout cela n'est pas définitif. Tout cela est passager. La terreur de l'islam intégriste est passagère. Il y a eu un temps en France, on a appelé le temps de la terreur. Eh bien, ça a été passager, mais ça existait, c'était épouvantable. C'était passager. Ce qui est 14-18, c'était passager. C'est épouvantable, je ne minimise pas la chose, c'était épouvantable. 39-45, c'était passager. Ça a été atroce, mais ça a été passager. Tout comme l'ont été les horreurs, les scandales, toutes ces choses qui sont arrivées dans ce pauvre monde, c'est passager. Tout passera, tout cela passera. Et il y aura d'autres scandales qui arriveront, et il y aura d'autres horreurs qui arriveront. C'est inévitable et Jésus dit même que c'est nécessaire. Mais malheur à l'homme par qui ces choses arrivent. Il y aura un jugement à la fin. Pas tout de suite. Dieu est lent, il n'est pas pressé. Mais il y a un jugement qui arrive. Malheur à l'homme par qui ces choses arrivent. Et nous là-dedans, qu'est-ce que l'ange veut nous dire? Eh bien, que nous devons distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Ce qui est définitif, c'est les leçons que nous apprenons de l'inévitable. Les leçons que nous apprenons des choses nécessaires qui doivent arriver. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, dit Jésus. Qu'est-ce que ces malheurs nous apprennent? Qu'est-ce que ça vous a appris, ce qui se passe depuis près de 2 ans chez nous? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ces alliés vous ont appris? C'est ça qui est définitif. Si nous arrivons à admettre que nos ennemis nous ont permis d'évoluer, c'est réglé. Cette compréhension, elle est fixée en nous de façon à ce que nous n'ayons plus à y revenir et nous allons pouvoir passer à l'épreuve suivante pour apprendre des choses plus grandes encore. Mais tant qu'on n'a pas compris, eh bien on patauge là-dedans. Cette compréhension, si vous avez compris, si vous avez réussi à admettre que ceux qui vous font du mal maintenant vous ont permis d'évoluer, c'est réglé. Cette compréhension, elle est fixée, je le répète, en vous de façon à ce que vous n'ayez plus à y revenir. C'est irrévocable. Ça fait maintenant partie de vous. Et vous emporterez cette valeur avec vous dans le monde futur. Ce qui fera de vous des régnants d'une valeur différente. Vous voyez, mes frères et sœurs, si tu apprends comment considérer tes ennemis, ceux qui te font du mal, ce n'est pas forcément des ennemis, les pauvres, ce n'est pas des ennemis, c'est seulement des nouilles. C'est des gens qui nous font du mal, ils ne se rendent même pas compte, ils pensent que c'est nous qui faisons le mal. Ils voient à l'envers, c'est comme ça. Si tu apprends à considérer ceux qui t'ont laissé tomber, ceux qui t'ont trahi, ceux qui n'ont pas voulu t'écouter, qui ont endurci leur cœur, alors tu te rendras compte qu'ils ont été souvent plus utiles que tes amis. Avec nos amis, ça glisse, tout va bien. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont tes ennemis qui t'obligent à travailler. Ce sont tes ennemis qui t'obligent à trouver des solutions aux problèmes qu'ils te posent et qui te permettent d'évoluer, de grandir, de changer ce qui pourrait être meilleur encore. Et ainsi, grâce à eux, tu deviens plus perspicace, plus résistant, et tu trouveras dans tes ennemis des ressources que tu ne soupçonnais pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des tas de choses dont je ne me mêlais jamais. Et maintenant, je suis devenu presque un expert là-dedans. Avec tes amis, tu te réjouis. Tu passes des bons moments. Quand tu les reprends, ils t'écoutent. Quand ils te reprennent, tu les écoutes. Entre amis, on se fait confiance. Les faux amis, les alliés, il y a toujours un moment où, pouf, ils ne font plus confiance. Tes amis, ils t'écoutent. Toi, tu les écoutes, quoi qu'ils disent. S'ils te reprennent et qu'ils se trompent, tu peux parler avec eux, ils t'écoutent, ils vont te croire, ils vont te faire confiance. Et entre amis, on peut profiter des expériences acquises grâce à nos ennemis respectifs. Parce que vous avez des ennemis que je n'ai pas. Et j'ai des ennemis que vous n'avez pas. Et je peux vous raconter mes histoires et ça va vous aider à régler les vôtres. Non, ce n'est pas comme ça. Mais bien sûr que c'est comme ça. On échange entre amis, on se fait confiance. Vous voyez, tout ce qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas compris l'utilité de ceux qui nous font du mal, on les déteste. Et c'est normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Comprendre quelle est leur utilité. Tant qu'on n'a pas compris qu'ils nous sont nécessaires, nous les détestons. Moi, je les ai détestés. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'ai de la miséricorde et de la pitié mêlée de crainte pour eux. Parce que j'ai vu tout ce qu'ils m'ont apporté. On en souffre. Quand on n'a pas compris leur utilité, le pourquoi c'est nécessaire qu'ils nous fassent ces vacheries, on en souffre.
Dans le monde, il y en a même qui cherchent à se venger. Nous, on ne se venge pas parce que la Bible nous dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, dit l'Éternel. » Donc, on ne cherche pas à se venger. Des fois, on aimerait, hein. Mais non, on ne le fait pas parce qu'on est obéissant à Jésus. On aimerait se débarrasser d'eux. Mais ben, on ne le fait pas. On dit « C'est Dieu qui va nous en débarrasser, c'est tout. » Mais tant qu'on n'a pas compris leur utilité, tant qu'on n'a pas compris que c'est nécessaire pour nous d'avoir de telles sortes de personnes qui nous en kikinent, qui nous empoisonnent la vie, tant qu'on n'a pas compris ça, on perd notre temps et on perd de notre énergie. Quand je repense à tous ces alliés, à ces amis qui m'ont laissé tomber, il y en a... Finalement, je trouve qu'ils m'ont rendu des services formidables. S'il n'y avait pas eu les trahisons du temps du Péreux, on serait toujours au Péreux. Hein. C'est grâce à eux qu'on est au château. Et c'est grâce à nos ennemis actuels qu'on va avoir ce qu'on va avoir. On ne va pas leur dire. Non. Sur Internet, on ne le dit pas encore, mais on montrera bientôt les photos. Mais c'est grâce à eux. On les applaudit. Allez, on les applaudit. Ah, les ennemis. C'est quelque chose. Jésus nous dit qu'ils sont nécessaires. Ils nous sont nécessaires. Et je sais bien, Jésus sait toujours très bien ce qu'il dit. Vous vous rendez compte, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Il faut que nous apprenions à les estimer à leur juste valeur. C'est tout. Vous savez, dans le monde, on a coutume d'élever des statues à ceux qu'on considère comme les bienfaiteurs de l'humanité. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et ça m'a donné une idée. Dans la belle maison que Dieu est en train de nous donner, on va consacrer une pièce, parce qu'on en aura suffisamment pour pouvoir le faire, on va consacrer une pièce à nos ennemis. Nous allons mettre leurs photos sur les murs, et nous mettrons des fauteuils, et de temps en temps, nous irons dans cette pièce pour contempler leur visage et nous souvenir de tout ce que nous avons appris et reçu grâce à leurs méchantes actions contre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une bonne idée. Parce que, mes frères et sœurs, ils sont des véritables bienfaiteurs pour nous. Ils nous ont aidés à devenir meilleurs. Ils nous ont aidés à avoir mieux. Bon, c'est vrai qu'apparemment, ils ne nous apportent rien de bon pour le moment présent, là. Faut vivre la chose au moment présent, et dans le moment présent, c'est ennuyeux. Mais en réalité, ils nous font le plus grand cadeau. Ils ne savent même pas, hein. Ils ne s'en doutent pas. Ils nous obligent à travailler sur nous-mêmes, ils nous obligent à nous renforcer, ils nous obligent à invoquer le nom du Seigneur avec foi, ils nous obligent à devenir plus intelligents. En fait, une fois de plus, Jésus a raison, nos ennemis sont vraiment nécessaires. Vous qui écoutez Révélation Bible là, vous avez des ennemis que je ne connais pas. Commencez à les regarder comme ça. Commencez à penser comme ça. Sinon, vous continuerez toute votre vie à les détester et vous ne pourrez pas mettre en pratique cette parole de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez-les ». Vous ne pourrez pas, vous ferez semblant, vous vous efforcerez à l'huile de coude, mais vous n'y arriverez pas. Il faut que vous compreniez qu'ils sont nécessaires, ces bougres, pauvres bougres. Comment ne pas les aimer à cause de tout ce que nous gagnons grâce à eux? Vous croyez que je plaisante, hein? Vous croyez ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je vous dis ce que j'ai dans le cœur et j'espère que vous, mes amis, vous me croyez. Réfléchissez quand même bien à ce que je vous dis ce matin. Réfléchissez-y bien. Bien sûr, aimer nos ennemis, c'est pas facile. Je dirais même que c'est la chose la plus difficile. Mais je voyais dans Paris Match la photo de ce jeune mormon qui est à l'hôpital, blessé. Il a été blessé en Belgique lors de l'attentat. Et il sourit. Et il dit qu'il prie pour ces gens qui sont dans l'erreur et tout. C'est quand même extraordinaire. Et puis vous avez des protestants, des catholiques et des évangéliques qui vous disent que ce n'est pas des chrétiens. Moi je dis que c'est des chrétiens. Pour agir comme ça, il faut être chrétien. Il
faut avoir l'esprit de Dieu. Et je suis en correspondance avec le président français de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il m'a écrit, et on correspond, il me tient au courant des nouvelles. Il y a eu 4 missionnaires comme ça qui sont... Et il y en a qui ont 2 particulièrement qui ont été très grièvement blessés, mais aucun n'a de la haine ou des choses comme ça. Et celui qui est sur Paris Match, il a déjà passé par 3 attentats. Il a vécu 3 attentats. Faut pas se promener avec lui, il porte la poisse celui-là. Eh bien, malgré ça, il reste toujours confiant dans son Dieu et il bénit ses ennemis. Ça fait réfléchir. C'est beau, n'est-ce pas? Un mormon. Un saint des derniers jours. C'est quand même extraordinaire que Jésus, il y a plus de 2000 ans, a pu tirer cette loi morale du néant où elle semblait être. Parce que, bon, arriver à dire un truc pareil, même Moïse, le grand Moïse, il ne l'avait pas trouvé. Hein. Il a dit, faut les détester, eux. Œil pour œil, dent pour dent, allez, blanc, passe-moi l'éponge, je les efface. Au fait, où est-ce qu'il a bien pu tirer cette loi morale, Jésus? Du soleil. Il le dit lui-même, on l'a lu. Du soleil, le soleil brille. Et il brille sans s'occuper de savoir si les créatures qui reçoivent ses rayons sont bons ou mauvais. Il brille sans se préoccuper de savoir si ceux qui reçoivent sa chaleur le méritent ou pas. Il l'envoie à tous. Le soleil nous parle de l'amour divin. Quand on contemple la nature, on voit la sagesse infiniment variée de Dieu. Le soleil nous parle de l'amour divin qui porte le même regard sur tous. Actuellement. Actuellement. Oui, actuellement, parce que tout de même, Dieu est juste. Et un jour, le malheur tombera sur les pas gentils. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Et si ce n'est pas sur cette terre, ça sera dans l'autre monde. Il vaudrait mieux pour eux que ça soit sur cette terre. Parce que dans l'autre monde, ça sera définitif. Nous devons faire comme Dieu, comme le soleil. Pas comme les humains en général. Parce que les humains, en général, répondent au mal par le mal. Ils répondent à la haine par la haine. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que cette vieille philosophie-là, ça n'a jamais porté de bons fruits. Ça amène à l'escalade de la violence et de la méchanceté. C'est terrible. Vous savez, la haine, ça ressemble beaucoup à l'amour sur certains points. Quand on aime quelqu'un, on s'y attache, on y pense tout le temps, on en parle tout le temps. Eh bien, ceux qui haïssent leurs ennemis sont liés à leurs ennemis. Ils en parlent tout le temps, ils s'y attachent, ils pensent à eux tout le temps. Ils en parlent tout le temps. La haine, ça crée des liens aussi forts et tenaces que l'amour. Bon, ces liens sont différents, c'est vrai. L'amour apporte certaines choses bénéfiques, alors que la haine, ça n'apporte pas de choses bénéfiques. Mais les liens sont aussi forts et tenaces dans la haine que dans l'amour. Mais... c'est à nous de discerner maintenant. C'est par le bien qu'on s'oppose au mal. C'est par le bien. Et nous, la seule chose de bien qu'on a trouvé à faire, c'est de dire, bon, on s'en va. Parce qu'on ne savait vraiment plus quoi faire d'autre. Alors, on s'en va. C'est par l'amour qu'on s'oppose à la haine. Je vais vous dire... Eh bien ça, c'est très important. Le mal finit toujours par être vaincu parce que Dieu lui a refusé l'immortalité. J'ai appris beaucoup de choses en 48 ans de conversion. Bientôt, on va fêter, ça sera mes 48 ou 49, je ne sais plus. Et une d'entre ces choses que j'ai appris, c'est que même avec la meilleure volonté, c'est impossible de ne pas s'attirer l'inimitié d'au moins quelques personnes. C'est impossible. Même Jésus n'a pas pu éviter ça. Ce n'est pas possible. Ne culpabilisez pas parce que vous avez des ennemis. Ne dites pas, oh, j'ai des ennemis, mais j'ai quand même peut-être aussi ma part de tort. Jésus, où est-ce qu'il avait des torts? Bon, peut-être que moi j'ai des torts, mais qu'on vienne me le prouver. Qu'on me le dise, qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Ils ne peuvent pas. Ils ont même pas essayé. Hein. Ils ont écrit 4 pages d'accusation. On a un homme de loi qui leur a répondu par A plus B que tout était faux. Ils ne peuvent pas prouver rien. C'est quand même triste. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, avec la meilleure volonté. C'est impossible de ne pas s'attirer l'inimitié d'au moins quelques personnes. Alors, avec ce que je viens de vous dire ce matin, vous allez pouvoir trouver une bonne raison d'aimer vos ennemis. Amen. La bonne raison d'aimer vos ennemis, je vous l'ai donnée ce matin. Voilà la bonne raison. Celle du cœur et de la tête. Un habile mélange de raison et d'amour. La haine, ça vous rend vulnérable. Vous, ça vous rend vulnérable. Alors aimez. Pour se défendre, il nous faut simplement entrer dans la forteresse imprenable de l'amour de Dieu. L'amour est la plus grande protection contre nos ennemis. Aimer ses ennemis, c'est une des choses les plus difficiles à réaliser, c'est vrai, mais c'est la seule arme efficace. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis ne serait-ce que parce qu'ils vous sont nécessaires. Amen. Jésus, veuille bénir ces paroles, permet que nous nous en souvenions dans les moments de crise plus aigus et que nous sachions toujours bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui prient contre nous, ceux qui veulent qu'il nous arrive du mal, ceux qui agissent presque comme des prêtres vaudous contre nous et qui veulent notre perte. Bénis-les et permet que nous restions toujours dans cette position de bénir ceux qui nous maudissent et de bénir ceux qui nous veulent du mal parce qu'ils nous sont nécessaires. Merci Seigneur de nous avoir indiqué ce chemin. Merci de nous avoir montré cela. Et merci de nous aider à le vivre dans le temps présent chaque instant afin que nous puissions être libérés et que nous puissions passer à une autre épreuve. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je demande aux musiciens de s'approcher, on va chanter et puis se réjouir, louer le Seigneur. Amen.